pour ce petit souci technique, mais on a l'espoir que ça va continuer, qu'on ne va plus avoir de soucis techniques. Et je voudrais dire bonjour aujourd'hui à nos deux églises. On va faire culte en commun avec l'église d'Herstal et avec l'église de Glen. Et je voudrais vous saluer tous qui êtes derrière votre écran ou qui allez peut-être le regarder un peu plus tard en différé. Je vais remercier Thomas qui nous accueille et qui nous permet de bénéficier de cette technique. Si vous voyez ici, j'ai plein de caméras, plein de techniciens autour de moi, des musiciens. Boris avait montré il y a quelques jours un petit peu le studio. Vous n'avez qu'à aller revoir la vidéo de la semaine passée, je pense. Et comme ça, vous verrez un petit peu la structure. Alors, savez-vous dans quelle période nous sommes ou savez-vous ce qui se passe ce week-end ? Beaucoup peut-être vont me dire, c'est le Black Friday, le vendredi noir. Alors personnellement, moi, un vendredi noir, quelque chose de noir, ça ne m'attire pas trop. Pourtant, ça a l'air d'être un fameux argument de vente. Moi, je préférerais être un dimanche blanc ou un dimanche de joie. Nous sommes effectivement dans une période de l'Avent. Il reste 4 semaines avant que nous puissions fêter Noël. Fêter qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus est descendu sur la terre. Mais je ne voudrais pas seulement m'arrêter à Jésus qui est descendu sur la terre, ce petit Jésus dans une crèche. Le monde accepte bien souvent ce petit Jésus dans une crèche qui a l'air inoffensif, innocent. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Avez-vous remarqué peut-être qu'à Noël, on fait des grandes fêtes. On invite énormément de personnes. Alors pour cette année, c'est un petit peu, ça va être un petit peu difficile, mais ça va peut-être nous permettre de nous recentrer sur l'essentiel. Peut-être, moi, dans ma famille, le 25 décembre, malheureusement, elle n'est pas chrétienne, il y a 30, 40, 50 personnes avec les enfants, mais malheureusement, Jésus n'est pas invité. Est-ce que Jésus sera invité pour votre prochaine fête de Noël? Vous avez droit à un ou deux invités. Est-ce que Jésus sera cet invité à Noël? Alors je voudrais m'arrêter sur l'œuvre de Jésus, ce qu'il a fait. Il n'est pas seulement né dans une crèche, mais il est mort sur une croix pour nos péchés. Il est mort pour que nous puissions un jour, si nous l'acceptons, nous présenter devant le Père. Et surtout, il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité et il est vivant. Et c'est un chant qu'on aura un petit peu après le message de Thomas qui nous dit « Alléluia, Jésus vit ». Peut-être aussi pour cette période de Noël, en petit comité, peut-être l'occasion d'inviter une personne seule en plus de Jésus, puisque vous avez droit à 2 personnes. Pensez aux personnes seules de l'Église qui, eux, vont être un petit peu écarté. Alors, dans notre église, et à première vue, à Herstal, vous l'avez déjà fait aussi, on a une habitude, on va dire. Alors, cette habitude n'a rien d'extraordinaire, ça ne va rien changer, mais on a l'habitude d'allumer une bougie. Alors, dans notre église, on allume cette bougie avec le doyen de l'église. Alors, on a 2 doyennes qui viennent d'avoir 90 ans, 91 ans même, Rosalia et Christina, mais on a surtout un doyen qui était Émile Collard, qui est décédé ce mois-ci du coronavirus. Et il est parti rejoindre la maison de son père. Et je voudrais avoir une pensée pour lui aujourd'hui. Peut-être certains d'Herstal aussi l'ont connu. Et je vais allumer une bougie aujourd'hui, la première bougie des 4 que nous allons allumer. Et je voudrais en profiter pour qu'on puisse chanter un chant qui nous dit « Tu es la plus belle parmi les plus belles des chansons d'amour ». Cette chanson d'amour qui doit nous amener, c'est ce geste d'amour qui doit nous amener à la joie. D'abord dans une écurie, dans une étable à Noël, mais qui finalement finit sur une croix où Christ est mort, mais il est ressuscité et il est vivant. Amen. À vous les musiciens.
Tu
Avez-vous le cœur en joie ce matin? Pour vous préparer à cette semaine de l'Avent, je pense qu'Herstal l'a déjà fait, on va le faire aussi. On va vous envoyer un lien où John Piper fait 25 méditations juste avant. Je pense que ça va apparaître dans quelques jours. Tous les jours, vous recevez un mail avec une petite méditation pour vous préparer au jour de Noël. Mais je vais prier pour ce culte. Oui, Seigneur, on veut te remettre ce culte, Seigneur. On veut te demander de le bénir, Seigneur. On veut surtout te demander de bénir Thomas, Seigneur, qui nous apportera la parole, Seigneur. Qu'elle puisse toucher les cœurs de chacun d'entre nous, Seigneur. Qu'elle puisse vraiment nous rendre joyeux, Seigneur, comme on vient de le chanter. Que notre joie, Seigneur, soit la tienne, Seigneur. Qu'on ne recherche pas la joie du monde, mais ta joie, Seigneur. Cette joie immense et cet amour immense que tu nous as fait, Seigneur, en envoyant ton Fils sur cette terre il y a plus de 2000 ans. Merci, Seigneur, pour ton amour. Amen. Alors, je vais laisser maintenant Nadia qui va nous apporter l'histoire des enfants. Alors, je sais que chez moi, les enfants l'attendent impatiemment, mais à toi, Nadia, pour l'histoire.
L'histoire.
Bonjour les enfants, nous allons continuer notre histoire dans la Bible te raconte Jésus. La merveilleuse surprise de Dieu. Les amis de Jésus étaient tristes. Ils ne reverraient plus jamais leur meilleur ami. Comment une telle chose avait-elle pu arriver? Jésus n'était-il pas celui qui porte secours? Le roi que Dieu avait promis? Ce n'était pas censé se terminer ainsi. Oui, mais qui a dit que c'était terminé? Juste avant le lever du soleil, le troisième jour, Dieu envoya du ciel un tremblement de terre, ainsi qu'un ange. Quand les gardes virent l'ange, ils tombèrent par terre de frayeur. L'ange roula la grosse pierre, s'assit dessus et attendit. Aux premières lueurs de l'aube, Marie-Madeleine, accompagnée d'autres femmes, se dirigea vers le tombeau pour laver le corps de Jésus. Le soleil matinal transperçait de ses rayons obliques les oliviers centenaires. Des gouttes de rosée scintillaient sur l'herbe et sur les feuilles comme autant de petites larmes dispersées çà et là. Les amis cheminèrent en silence le long du sentier pentu, à travers les oliveraies, jusqu'à ce qu'elles atteignent le tombeau. Immédiatement, elles remarquèrent une chose étrange. Il était grand ouvert. À travers l'ouverture, elles risquèrent un coup d'œil dans le tombeau obscur. Ça alors, le corps de Jésus avait disparu. Et ce n'était pas tout. Un homme auréolé de lumière était là. Ses habits étaient comme fabriqués d'éclairs. « N'ayez pas peur, dit l'ange. » Mais elles ne purent s'empêcher de hurler d'effroi. L'ange leur demanda « Que faites-vous ici? C'est un tombeau et les tombeaux sont là pour les morts. » Les femmes restèrent bouche bée. « Jésus n'est plus mort, dit l'ange, il est de nouveau vivant. » Et leur cœur tressaillit de joie. Puis l'ange se mit à rire avec tellement de gaieté que pendant un instant, elles crurent qu'elles venaient de se réveiller d'un cauchemar. Les autres femmes coururent jusque chez elles, mais Marie resta en arrière. Comment était-ce possible? Jésus était vraiment mort. Comment pouvait-il être vivant? À ce moment-là, Marie entendit quelqu'un d'autre dans le jardin. C'est peut-être le jardinier, pensa-t-elle. Il saura où se trouve le corps de Jésus. Je ne sais pas où est le corps de Jésus, dit Marie d'un ton pressant. Je ne le trouve pas. Pas de problème. Jésus, lui, savait où était Marie. et il l'avait trouvée. Marie. Une seule et unique personne prononçait son nom comme ça. Elle pouvait entendre son cœur battre très fort. Elle se retourna et ne put distinguer qu'une silhouette. Elle porta sa main en visière pour mieux voir et pensa rêver. Mais elle ne rêvait pas, elle voyait bien. « Jésus !» Marie tomba par terre. Soudain, ses yeux se remplirent de larmes et de gros sanglots secouèrent tout son corps. La seule chose qu'elle voulait en ce moment, c'était se cramponner à Jésus et ne jamais le laisser s'en aller. « Plus tard, tu pourras t'accrocher à moi, Marie, lui dit Jésus avec douceur. Alors, tu seras toujours près de moi. Mais maintenant, va dire aux autres que je suis vivant. » Marie courut à perdre haleine jusqu'à la ville. Elle n'avait jamais couru aussi vite et aussi loin de toute sa vie. Elle aurait pu courir ainsi pour toujours. Elle avait l'impression de voler. Le soleil semblait lui aussi danser, resplendir et bondir dans le ciel. Il faisait la course avec elle, et aussi loin qu'elle s'en souvienne, il n'avait jamais autant brillé dans l'air pur et vif. Et ce matin-là, pendant qu'elle courait, il lui sembla presque que le monde entier avait été refait à neuf, que le monde entier chantait de joie. Les arbres, les bruits presque imperceptibles dans l'herbe, les oiseaux, son cœur. Dieu permettrait-il vraiment que toutes les choses tristes n'existent plus? Que même la mort n'existe plus? Elle était impatiente de tout raconter aux amis de Jésus. « Ils ne me croiront jamais », se dit-elle en riant. Et bien sûr, elle avait raison.
Alors, bonjour. À première vue, il y a eu un petit souci avec l'image, mais vous avez eu le son, vous avez eu la belle voix de Nadia, et on la remercie pour cette histoire. Alors, on va avoir maintenant un temps de lecture où Christine, on espère, va pouvoir nous lire le texte d'aujourd'hui qui se trouve dans 1 Chronique 17. Et tout de suite après, on aura Thomas qui nous apportera la méditation. Il n'y aura pas de temps et on aura le temps pour ceux qui ne sont pas habitués à louer Dieu. On aura quelques chants après le culte, après le message, pardon, pas après le culte, pour louer notre Seigneur. Je vais laisser la place maintenant à Christine pour lire 1 Chronique 17.
Je lis dans 1 Chronique 17. Lorsqu'il fut installé dans son palais, David dit au prophète Nathan, « Vois, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de l'Alliance de l'Éternel se trouve sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel. Ce n'est pas à toi de me construire une maison pour que j'y habite. En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir Israël d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je suis passé d'une tente à l'autre, d'un lieu de résidence à l'autre. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je une fois dit à l'un des juges d'Israël que j'avais désigné pour diriger mon peuple, « Pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre ?» Alors, annonce maintenant à mon serviteur David. « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois le chef sur tout mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi. » Et j'ai rendu ton nom pareil à celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. J'ai humilié tous tes ennemis. De plus, je t'annonce que l'Éternel va te construire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu iras rejoindre tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, issu de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me construira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec ton prédécesseur. je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera affermi pour toujours. » Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Éternel Dieu, et qu'est-ce que ma famille, pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis ? Et c'est trop peu à tes yeux, ô Dieu ! Tu parles de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain, et tu me traites comme si j'étais un homme important, Éternel Dieu. Que pourrais-tu dire de plus, David, sur la gloire accordée à ton serviteur ? Tu connais ton serviteur. Éternel, c'est à cause de ton serviteur et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et que tu les lui as révélées. Éternel, personne n'est semblable à toi, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Existe-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple Israël ? Ô Dieu, tu es venu le racheter pour faire de lui ton peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges en chassant les nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. Tu as établi ton peuple, Israël, pour qu'il soit ton peuple pour toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa famille subsiste jusque dans l'éternité et agit comme tu l'as dit. Qu'elle subsiste et qu'on dise éternellement la grandeur de ton nom en affirmant « L'Éternel est le maître de l'univers, le Dieu d'Israël et un Dieu pour Israël, et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. En effet, c'est toi-même, mon Dieu, qui a révélé à ton serviteur que tu lui construirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, Éternel, c'est toi qui es Dieu, et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille donc bénir la famille de ton serviteur afin qu'elle subsiste éternellement devant toi, car ce que tu bénis, Éternel, est béni pour l'éternité. »
Nous voilà de retour. Alors, merci à Christine pour la lecture. Alors, comme vous avez pu le constater, la patience et la persévérance des épouses prouvées est mise à rude épreuve ces derniers jours. Même chose la semaine passée pour Stéphanie. Alors, continuons. Aujourd'hui, nous sommes en 1 Chronique 17. Alors, ce texte nous donne un petit exemple de que faire lorsque nos rêves se brisent devant nous. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais vendredi, pour beaucoup, c'était la déception. On était en train d'espérer des fêtes en famille, on espérait ce moment, on allait pouvoir se rassembler. J'avais hâte de pouvoir retrouver ma famille, mes parents, mes beaux-parents, peut-être aussi ceux qui étaient notre bulle pendant un temps. On imaginait déjà des repas, des moments sympas ensemble pour nous rappeler la naissance de notre Sauveur, mais aussi surtout pour profiter du temps en famille. On imaginait toutes ces choses, et là, d'un seul coup, cette porte se ferme. Ces envies, qui ne sont pas malsaines, toutes ces choses sont là en train de tomber devant nous. Et on se retrouve dans la déception, on se retrouve attristé de ne pas pouvoir faire ce que nous étions en train de projeter. Dans le texte du jour, nous avons un exemple, l'exemple de David qui avait plein de projets. Et ces projets ne peuvent pas aboutir. Cette demande qu'il fait à Dieu, cette porte qu'il voudrait voir s'ouvrir, se ferme juste devant lui. Alors on connaît plein de choses de David. On sait que David, c'est un guerrier, c'est un serviteur de Dieu, c'est un poète, c'est un grand roi. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut venir parler à Dieu, qui peut venir suggérer des choses à Dieu, c'est bien David. Et là, cet homme plein d'enthousiasme arrive avec une proposition. Ce n'est pas une mauvaise proposition, c'est une bonne proposition. Il arrive et ce qu'il suggère à Dieu, c'est de lui construire une maison. Lui, David, à ce moment-là de l'histoire d'Israël, il a déjà un palais, un beau palais. À l'intérieur, il y a plein de bois de cèdre, c'est du bois précieux. Donc c'est vraiment, il a un beau palais. Et là, il est en train de dire, moi, le roi, David, j'ai un palais. Et Dieu, lui, il vit, comprenez l'image, il vit dans une tente à l'extérieur. Non, il faudrait réparer cette injustice, il faudrait que lui aussi, Dieu, puisse avoir
une maison, une demeure à la hauteur de sa gloire. Un bâtiment qui puisse refléter physiquement, visiblement autour de lui, qui est Dieu. Et donc il est en train de penser à ce projet de construire une maison solide qui va perdurer, qui sera la présence visible de Dieu sur terre pendant une bonne période. Il pense à tout ça, et alors qu'il fait cela, il va trouver le prophète. Déjà, c'est une bonne chose, une mini-parenthèse ici, il ne se lance pas sans avoir demandé l'avis à Dieu, sans remettre les choses dans la prière, sans aller trouver le prophète Nathan. Il va trouver le prophète Nathan lui dit oui. Et puis, on va voir quelle est au final la réponse que Dieu lui réserve. Regardons ensemble cette réponse, on va regarder ça, et on va voir ça au verset 3 et 4 de 1 Chronique 17. Verset 3 et 4, il nous est dit « La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Ce n'est pas à toi de me construire une maison pour que j'y habite. » En un mot, la réponse que Dieu réserve à David est non. David veut construire une maison, une belle demeure, c'est un dessein louable, c'est quelque chose de positif, et Dieu lui ferme la porte. Non, pas maintenant. Non, ce n'est pas à toi de me construire ce temple. Ça a dû être un choc pour David, ça doit être étonnant d'avoir un beau projet, et puis d'un seul coup, la porte se ferme devant lui. Déception. Et ce nom est un nom clair, mais c'est un nom qui, comment dire, a des raisons. Et Dieu va argumenter, il va soulever deux raisons pour lesquelles ce n'est pas à David de construire le temple. Lisons ensemble les versets 5 à 10, toujours de 1 Chronique 17. Verset 5, il nous est dit « En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir Israël d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je suis passé d'une tente à l'autre, d'un lieu de résidence à l'autre, partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je une seule fois dit à l'un des juges d'Israël que j'avais désigné pour diriger mon peuple, pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre ? Annonce maintenant à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom pareil à celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme par le passé. Comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël, j'ai humilié alors tous tes ennemis. » Jusqu'ici, notre lecture. Ici, nous pouvons voir la première raison pour laquelle Dieu dit non à David. Première raison, il la soulève à travers toute l'histoire d'Israël. Il revient sur l'histoire d'Israël en expliquant de quelle façon il les a fait sortir d'Égypte et les a conduits, les a protégés jusqu'au jour de David. Et en fait, ce qu'il est en train de dire là, ce que Dieu est en train de dire là à David, il lui dit, tu as une bonne idée peut-être de construire le temple, c'est une idée qui est là, mais ne pense pas que moi, Dieu, je n'ai pas eu cette idée avant, que j'étais en pause dans mes plans, que mes plans étaient en train d'être, questionnés. En fait, Dieu est en train de monter à travers tout ce survol de l'histoire d'Israël et de David, qu'il est Dieu, qu'il a un plan, qu'il a commencé avec la création de la terre, qu'il a commencé avec la sortie d'Israël d'Égypte, et que ce plan est en train d'avancer. Dieu, quelque part, n'a pas besoin d'un homme même aussi merveilleux que pouvait être David, Dieu n'a pas besoin d'un homme pour venir lui suggérer des nouveaux plans. Dieu souligne, regarde toute cette histoire, je l'ai guidée, je l'ai tissée et je vais continuer. Et ça, c'est la première raison pourquoi ce n'est pas à David de suggérer un plan, de venir avec un nouveau plan, parce que Dieu a déjà ses plans de toute éternité. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a une deuxième raison. Deuxième raison, nous allons la voir ensemble et nous pouvons voir ça au verset 10 et 14. Lisons ensemble versets 10 et 14. De plus, je t'annonce que l'Éternel va te construire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu iras rejoindre tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant issu de tes fils et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me construira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec ton prédécesseur. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et mon royaume et son trône sera affermi pour toujours. Jusqu'ici, notre lecture. Quelle est la deuxième raison pour laquelle Dieu n'accepte pas le projet, en tout cas pour le monde de David ? Parce qu'en fait, ce projet était déjà dans la tête de Dieu. Dieu était déjà en train de préparer ce projet. Et ce projet est plus grand que ce que David pouvait penser. Ici, c'est intéressant de voir le vocabulaire utilisé. Pas une seule fois, on utilise le mot « temple ». On utilise toujours le mot « maison ». Une maison, lieu de vie pour Dieu. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que justement, il retourne cette idée d'un lieu de vie, d'une maison, d'un endroit physique, de la présence de Dieu, que serait le temple. Dieu retourne cette image. Il utilise cette notion de maison pour dire « oui, un descendant va me construire une maison », mais il souligne aussi que ce descendant sera la maison et que c'est Dieu qui va construire cette maison, c'est Dieu qui va construire une maison à David. Nous pouvons donc voir ici que c'est Dieu qui est aux commandes et que Dieu a un projet pour une maison, le temple, mais aussi une maison qui va durer à toujours. Regardez encore avec moi le texte à partir du verset 10. Dieu dit « De plus, je t'annonce que l'Éternel va te construire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu iras rejoindre tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, issu de tes fils, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui me construira une maison, et j'affirmerai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec ton prédécesseur. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera fermé pour toujours. » Ici, Dieu parle d'un descendant de David qui surgira après la mort de David et qui va construire la maison de Dieu. Alors, ce descendant, quand on regarde l'histoire d'Israël, on est obligé de faire un focus, de faire une pause sur le grand-fils de David, Salomon. Salomon qui, après la mort de David, a commencé à construire le temple. Salomon dont la sagesse était connue de partout. Même la reine d'Éthiopie est venue admirer la grandeur de sa sagesse et ses richesses. On peut faire une petite lecture en 1 roi 5, 10, 14 qui nous donne un petit aperçu de cette grandeur qui était celle de Salomon. 1 roi 5, 10 à 14 nous dit « La sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'Est et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage que n'importe quel homme, plus sage qu'Étan, l'Ezrakite ou Kemam, que Kalkol et Darda, le fils de Malchoul. Et son nom était connu parmi toutes les nations environnantes. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé des arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles, des poissons, de tous les peuples. On venait pour écouter la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler. » Donc ici, on peut voir dans ce passage qu'on a des gens de partout qui viennent regarder, admirer la grandeur, la sagesse de Salomon. Salomon est vraiment un roi quelque part glorieux. Son aura dépasse ses murailles, dépasse ses frontières. De partout, on entend parler de ce grand roi. Et on dit de lui qu'il était plus sage que Étan l'Ezrakite, enfin, je ne connais pas ces personnes, mais en gros, il était plus sage que le Elon Musk de l'époque, plus sage, plus riche que le Fred Bezos, que le Mark Zuckerberg, que Gandhi ou Barack Obama. Il était plus sage et plus riche que toutes ces personnes-là réunies. Salomon était vraiment un homme merveilleux. Et il a construit un temple sublime. Ici, on a vous voyez sûrement une petite image. Bon, ce n'est pas une photo d'époque, c'est un dessin qui donne un petit aperçu de la grandeur de ce temple que Salomon a construit sur base des plans inspirés par Dieu à David. Un bâtiment merveilleux. Mais quand on pense à Salomon, quand on pense au temple, on est obligé de se dire que quelque part, il y a un souci. Si on revient sur le texte que nous avons lu tout à l'heure en 1 Chronique 17, on peut voir, et vous voyez sûrement, que Dieu souligne qu'il va affermir cette maison pour toujours. Et là, on le voit, c'est écrit trois fois dans le passage, qu'il va affermir son trône pour toujours, verset 14, qu'il l'établira pour toujours dans sa maison et que son trône sera affermi pour toujours. Ici, on a trois toujours par lesquels Dieu est en train de venir marteler que cette promesse, que cet engagement est solide. Mais lorsqu'on pense à cette promesse d'une maison, de quelqu'un qui est là et qui règne, une descendance pour toujours, on est obligé de comparer avec Salomon, avec le temple de Salomon, et de se dire qu'il y a un souci quelque part, il y a un manquement. Et c'est vrai que quand on regarde la vie de Salomon, on se rend compte qu'à la fin de sa vie, Salomon a commencé à s'éloigner de Dieu. Dieu ne l'a pas rejeté, mais après la mort de Salomon, le royaume d'Israël fut divisé en deux. Le royaume du sud avec Juda et le royaume du nord qui a continué à porter le nom d'Israël. On a ces deux royaumes qui ont avancé ensemble. Et un peu plus tard, ces deux royaumes ont tous deux été conquis par la force et au final, après plusieurs périodes, après plusieurs attaques et après plusieurs exodes, Jérusalem est tombée et le temple a été détruit. 500 ans après qu'il a été construit, le temple de Salomon a été détruit par les Babyloniens. Quelque chose d'horrible, plus de roi davidique, plus personne de la lignée de David sur le trône, plus de temple de Jérusalem. Et c'est déstabilisant, ça nous pousse à nous demander, mais est-ce que les promesses de Dieu sont bien solides? Et on est obligé de se demander, mais est-ce que ce Salomon est bien réellement ce fils promis, issu de la descendance de David, et qui va être, comment dire, qui va être la maison de Dieu pour toujours. Et en fait, Salomon n'était pas ce descendant promis. Salomon était un type, un peu comme, comment dire, un peu comme lors d'une éclipse lunaire où la lune vient se mettre devant le soleil. Pendant un temps, on ne voit plus le soleil, on voit juste un petit peu le soleil autour de la lune. En fait, pendant un temps, Salomon, c'était la lune, quelque chose de grand. On voyait qu'il y avait quelque chose d'autre derrière, mais on ne voyait pas à quel point c'était grand. Et si on met ces deux l'un à côté de l'autre, si vous regardez sur une carte la lune en proportion par rapport au soleil, la lune est toute petite à côté du soleil. De la même façon, Salomon a été une préfiguration, quelque chose qui a donné une image avant-coureur de ce qu'allait être le grand roi issu de la présence, issu de David. Mais ce grand roi est beaucoup plus grand que Salomon, bien plus glorieux. Et lui, il est éternel. Il est le fils promis. Il est le fils au cœur de l'histoire de David. Et il est le fils au cœur de l'histoire d'Israël. Le fils promis en Genèse 3 à Ève. Il est ce fils qui va écraser la tête du serpent. Il est le fils parfait, la présence même, la maison de Dieu, le temple, la présence visible de Dieu sur la terre. Ce fils qui vient accomplir toutes les prophéties, ce fils, nous savons qui il est. Hébreux 1, versets 5 et 6, nous donne un peu de précision sur cela. Hébreux 1, versets 5 et 6 nous dit, « En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, « Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui ?» Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Par contre, lorsqu'il a introduit le premier dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Ici, Hébreux 1 reprend un passage de 1 Chronique 17 et il souligne et il applique cela à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est ce fils promis. Jésus-Christ est cette promesse faite à David qu'un jour un descendant viendra et régnera pour toujours. Ce roi glorieux qui règne pour toujours, ce n'est pas un ange, c'est ce fils d'une femme, mais surtout le fils de Dieu, Jésus-Christ. Il est le cœur de l'histoire de David, il est le cœur de l'histoire de l'Ancien Testament, de la Bible en entier, le cœur de l'histoire de l'humanité. C'est en lui que toutes ces choses trouvent un sens profond. C'est en lui que nous trouvons le sens de notre vie profondément. Notre histoire personnelle passe par des moments difficiles et tous, nous cherchons quelque part après un sens profond à notre vie. Tous, nous recherchons après le bonheur, après quelque chose de plus profond que simplement ce qui est matériel. Cette recherche qui est de plus en plus exprimée autour de nous, cette recherche trouve son aboutissement complet dans ce fils qui vient humblement sur la terre, qui vient naître d'une mère et qui sera dans une mangeoire. Ce fils bien-aimé, c'est Jésus-Christ, bien entendu. Il est l'exemple parfait, il est le cœur de toute chose. Pour nous, aujourd'hui, cela doit nous faire réfléchir que, quels que soient nos projets, nos envies, en fait, ce qui compte plus que nos projets, c'est que ce Fils soit mis en avant. Ce qui compte plus que toute autre chose, c'est que nous regardions à ce Fils et que nous le fassions connaître. Et aujourd'hui, nous avons une grande responsabilité sur cette terre. Nous avons la responsabilité d'apprendre à connaître ce Fils et à le faire connaître. Et par cela, nous aussi, nous sommes un peu de ce Fils promis à David. Par cela, nous sommes nous aussi un peu de cette maison, de ce temple davidique qui fait connaître autour de nous, qui fait connaître sur le monde qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Je lis encore avec vous un petit passage qui se trouve en 2 Corinthiens 6, versets 16 à 18, qui nous dit « Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles ? En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, nous puissants. » Ici, le verset 18 de 2 Corinthiens reprend le texte de 1 Chronique 17 et souligne que nous aussi, nous sommes temple de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Et par cela, aujourd'hui, nous avons cette responsabilité de faire connaître sa gloire autour de nous. Dieu est le soleil de toutes choses. Jésus est cette expression de Dieu, ces rayons qui viennent réchauffer la terre. Et nous avons cette responsabilité de refléter ces rayons autour de nous, dans les coins les plus sombres de ce monde. Nous avons cette responsabilité d'être temple de Dieu, présence de Dieu. Mais peut-être vous pouvez vous questionner et me dire, et vous dire, mais comment faire pour être présence de Dieu aujourd'hui? Comment faire pour être temple de Dieu? Alors on pourrait faire toute une étude biblique, toute une série d'études là-dessus, mais ici j'aimerais simplement attirer votre attention sur la façon à travers laquelle David a été cette présence de Dieu, de quelle façon David a exprimé cela autour de lui, alors que Dieu lui disait un non catégorique pour son projet dans les plans où lui l'avait décidé. Alors, regardons ensemble la fin du passage, et je vous invite à prendre attention à la réaction de David au moment même où Dieu lui ferme la porte. Il veut construire le temple, il demande à Dieu s'il peut construire le temple. D'abord, Nathan lui dit oui, et puis un peu plus tard, Nathan vient le retrouver et lui dit non. Regardez avec moi la réaction de David, verset 15, en 1 Chronique 17. Nathan reporta toutes ses paroles et toute cette vision à David. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit « Qui suis-je, Éternel Dieu? Et qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? Et c'est trop peu à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain et tu me traites comme si j'étais un homme important, Éternel Dieu. Qui pourrait te dire, que pourrait te dire de plus David sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur. Éternel, c'est à cause de ton serviteur et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les lui as révélées. Éternel, personne n'est semblable à toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Existe-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme le peuple d'Israël? Ô Dieu, tu es venu la racheter pour faire de lui ton peuple, pour te faire un nom, pour accomplir des miracles et des prodiges, en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. Tu as établi ton peuple Israël pour qu'il soit ton peuple pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa famille subsiste jusque dans l'éternité. Et agis comme tu l'as dit. Qu'elle subsiste, que l'on dise éternellement la grandeur de ton nom, en affirmant l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël, et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. En effet, c'est toi-même, mon Dieu, qui as révélé à ton serviteur que tu lui construirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé parler devant toi. Maintenant, Éternel, c'est toi qui es Dieu, et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille donc bénir la famille de ton serviteur, afin qu'il subsiste éternellement devant toi. Car ce que tu bénis, Éternel, est béni pour l'éternité. Ici, la fin de ce passage, où on peut voir David en train de louer, et c'est choquant pour nous. On s'attend, alors que une porte vient de se fermer devant lui. On s'attend à ce qu'il râle, qu'il rouspète, comme nous en avons facilement le travers. Mais au lieu de ça, il se réjouit et il accepte avec plaisir. Et il reconnaît avec plaisir que Dieu est ce Dieu de toute éternité, qui a dirigé l'histoire d'Israël et qui a dirigé son histoire personnelle. Il reprend cela à son titre. C'est pas simplement il l'entend, il l'accepte, mais il le prend et il exprime cela de nouveau. Il souligne cela en louant, en adorant Dieu. Ensuite, il continue et il remercie Dieu pour cet avenir glorieux. Il remercie Dieu parce que Dieu est en train de lui promettre un avenir glorieux pour lui et pour sa famille. Il le remercie parce qu'il lui prépare une éternité. Ce sont des bons points pour nous, que nous pouvons facilement nous appliquer. Premièrement, nous pouvons nous rappeler qu'il est Dieu, qu'il est souverain sur toutes choses, qu'il maîtrise toutes choses. Et enfin, nous pouvons nous rappeler qu'il est souverain sur notre passé, sur notre présent, et aussi qu'il nous prépare un avenir glorieux dans l'éternité. Alors, cette semaine, je pense que tous nous sommes passés par des grandes frustrations. Lorsque vendredi, nous avons appris que les fêtes étaient annulées pour nous, que nous ne pourrions pas vivre les fêtes en famille avec nos proches. Tous les projets que nous étions en train de faire se sont vus d'un seul coup éteints. La porte a été fermée sur notre nez. Et c'est vrai que c'est vraiment décevant. J'avais envie, comme j'ai dit tout à l'heure, de pouvoir passer les fêtes avec ma famille, avec ceux qui me sont chers, avec des amis, de pouvoir faire quelques rencontres, pas faire des rencontres tous les jours, mais juste pouvoir avoir une ou deux fêtes en famille, ça aurait été génial. Et là, non, rien de tout ça. C'était souvent. Mais au milieu de ça, il est bon de se rappeler. Dieu maîtrise toutes choses. Et ce qui est important, ce n'est pas que nos projets s'accomplissent. Ce qui est important, ce n'est pas que nous soyons épanouis. Ce qui est important, c'est que nous puissions glorifier Dieu et le faire connaître autour de nous, que nous puissions faire connaître le vrai sens de Noël à tous ceux qui nous entourent. C'est là ce qui est le plus important pour aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité. C'est de cela dont le monde a besoin. Le monde a tellement voler, transformer Noël, où Noël est devenu juste une fête de consommation, où on achète plein de choses, où on mange plein de choses, où on boit plein de choses. Ici, pour nous, c'est l'occasion de nous rappeler que Noël, c'est plus que ça. Noël, c'est l'occasion de nous rappeler qu'il y a un sens profond en Jésus-Christ. Je pense que nos enfants se souviendront de Noël 2020, et on peut leur en donner plusieurs souvenirs. C'est à nous de choisir quels souvenirs nous voulons marquer dans leur mémoire. On peut premièrement, leur marquer un mauvais souvenir, un souvenir rempli de râles. Vous avez bien remarqué dans le texte, à aucun moment, David, alors que la porte se ferme, ne râle. Ici, première chose que nous pouvons faire pour ne pas rater Noël 2020, pour que Noël 2020 ait une saveur particulière, et une saveur vraie, juste, ne râlons pas. Oui, c'est difficile, et ce week-end, j'ai remarqué que j'avais tendance à râler, plus que d'habitude. Ne râlons pas. Parce qu'en râlant, nous-mêmes, nous allons devenir amers et nous allons faire rentrer cette amertume dans ceux qui nous entourent. Et au lieu d'avoir une fête en plus petit comité, nous allons avoir un râle en plus petit comité. Protégeons-nous et protégeons de ceux qui nous entourent du râle. Ne râlons pas, mais au contraire, rappelons-nous ce que Dieu a fait. Peut-être que ce sera l'occasion, durant les jours de fête, de pouvoir se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Peut-être l'occasion de rappeler notre témoignage à nos enfants. Ça serait une bonne façon de vivre Noël, en rappelant ce que Dieu a déjà fait dans notre vie personnelle. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir aller peut-être un peu plus loin, de pouvoir, en famille, pourquoi pas durant les semaines de congés scolaires, pourquoi ne pas lire un bon livre en famille, une bonne biographie, pourquoi ne pas lire en famille, chaque soir, un ou deux chapitres d'un évangile, Marc, Matthieu ou Luc, pourquoi ne pas profiter de cela pour que ce Noël soit marqué dans la mémoire de vos enfants, de votre entourage, comme l'année où on a lu la Bible en famille, comme l'année où on a lu une biographie, où on s'est rappelé des témoignages d'un tel dans la famille. Faisons de ce Noël un Noël qui a un vrai sens, où nous nous rappelons ce que Dieu a déjà fait. Et par cela, à travers cela, nous pourrons aussi nous rappeler ce que Dieu est en train de faire pour nous dans l'éternité, en Jésus-Christ. Rappelons-nous, oui. Deuxième application, première application, comme vous venez de l'entendre, rappelons-nous ce qu'il a déjà fait et vivons cela durant les fêtes. Deuxième application, facile, tournons nos regards vers l'avenir et rappelons-nous ce lieu précieux que Dieu nous prépare pour l'éternité. Et enfin, faisons-le connaître, apprenons-le, apprenons d'abord premièrement à mieux le connaître et faisons-le connaître autour de nous. Pour nous, pour que nous puissions mieux le connaître, je vous encourage à pouvoir vivre l'avant avec John Piper. Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est un auteur assez prolifique qui est vraiment chouette à lire, très encourageant. Et il commence justement cette semaine une préparation d'avant. Ça se passe par mail, il faut s'inscrire sur leur site internet. Ça va très vite. Et puis, chaque jour, on reçoit une petite méditation qui nous permet de réfléchir un peu mieux au sens de Noël. Ça peut être bien si on peut vivre ça tout seul pour se nourrir du vrai sens de Noël, alors que partout autour de nous, on va entendre des râles, et que ça peut être aussi une bonne source pour nous de pouvoir lire ça, et puis de pouvoir en parler avec notre famille, peut-être avec notre entourage, quand on sera au téléphone avec une tante, avec un oncle, et qui va rouspéter sur la situation. Au lieu de nourrir ce râle, au lieu de rentrer en conflit, nous pourrions diriger le regard à travers ces quelques idées que John Piper aura pu nous suggérer. Profitons de cette période pour nourrir Noël. Rappelons-nous qu'au cœur de l'histoire de David, au cœur du cœur, même quand les portes se ferment, le plus important, c'est Jésus-Christ. Rappelons-nous qu'au cœur de notre histoire, même que lorsque les portes se ferment, le plus important, c'est Jésus-Christ. Faisons-le connaître autour de nous. Nous en arrivons à la fin de ce temps de réflexion autour de la parole, et nous allons chanter ensemble un chant qui nous parle de celui qui est né il y a 2000 ans dans une table, et ce chant nous parle de sa vie, cette vie qu'il a aujourd'hui, car oui, il est né dans une étable, oui, il a vécu une vie humaine, même si elle était merveilleuse, et qu'elle était glorieuse, mais aussi il est ce Dieu qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, et qui est vivant aujourd'hui, qui nous apporte par cela la réconciliation, la paix. Je vous invite à écouter, peut-être à chanter devant vos écrans, ce chant « Jésus vit ». Les musiciens, c'est à vous.
Thank you.
Amen. Jésus vit, la mort est anéantie. Et il a à lui seul l'honneur et la gloire, le règne. Le chant suivant va nous dire « Merci notre Père d'avoir envoyé ton Fils Jésus, ta lumière par ton esprit. » Cette lumière qui brille sur ce monde, dans les ténèbres, ce monde noir. Jésus est notre espoir. Cet agneau venu des cieux, qui a été crucifié, mais qui est aussi ressuscité, un glorieux ressuscité. Et le dernier couplet dit « Un jour, dans la gloire, je verrai sa face. Je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. » Quelle espérance, quel sujet de louange. Et on veut louer notre Seigneur aujourd'hui. Et on va chanter ce chant qui nous dit « Rédempteur du monde ». Et juste après, c'est Piotr, le papa de Boris. Vous connaissez Boris, vous ne connaissez peut-être pas encore son papa. Il priera pour ce culte et pour ce que Christ a fait pour nous. À vous les musiciens, Rédempteur du monde.
Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci du fond de notre cœur. Merci parce que nous avons encore entendu ce rappel aujourd'hui que toi, tu es le seul Dieu, le Dieu vivant, le Dieu de toute éternité, et que c'est toi qui as créé toutes choses et tu as un plan qui continue et qui nous arrive et que nous devrons nous souvenir que c'est toi qui as planifié toutes choses et que nous ne devrons pas nous inquiéter pour quoi que ce soit. Merci Seigneur pour cette période de Noël dans laquelle nous rentrons, cette période de l'Avent où nous nous souvenons que toi tu es venu sur cette terre pour apporter le salut. Merci Seigneur pour ta venue et que nous puissions, dans la personne de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, avoir la certitude que nous allons passer l'éternité avec toi. Il suffit juste d'accepter ce don parfait qui a été préparé depuis toute l'éternité pour nous. Oui, Seigneur, je te demande de garder chaque personne qui a entendu le message aujourd'hui, qui a entendu ce rappel, que c'est ton plan qui est en train de se réaliser et que nous ne devons pas nous inquiéter et vouloir faire et montrer nos idées et nos plans. C'est le tien qui compte, c'est le tien qui est plus important. Oui, Seigneur, donne-nous cette envie aussi et cette possibilité qu'en cette période de Noël, nous puissions partager avec notre entourage le vrai sens du Noël, que ce soit pour eux aussi occasion de te connaître comme Seigneur et Souverain. Je te prie tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Merci Piotr pour ta prière. Merci aussi aux musiciens pour les chants qu'ils nous apportent. Alors, quelques annonces pour l'église de Glin. Enfin, il n'y a pas énormément, juste vous rappeler la réunion de prière sur Zoom le jeudi. Rappelez aussi que le culte ici sera possible de le revoir en direct. Le lien sera probablement accessible fin de journée ou demain. Mais quel grand sujet de bénédiction nous avons. Quel grand sujet de bénir notre Seigneur pour ce qu'il a fait. Mais il n'y a pas que ces sujets-là. Et nos deux églises ont justement deux sujets de bénédiction. C'est Édouard Wanat et Joachim Dontaine. Deux personnes qui étaient atteintes du Covid, qui sont sorties du coma, qui vont mieux. Alors la convalescence va sûrement être longue et on peut encore continuer à prier pour eux. Mais quel sujet de bénédiction. Mais est-ce qu'on ne peut pas encore bénir Dieu pour plein d'autres choses, le remercier pour tout ce qu'il fait jour après jour pour nous? Dans les prières avec mes enfants, j'aime bien rappeler qu'on a du chauffage, on a un toit, on a de la nourriture tous les jours dans notre assiette. Est-ce que ce n'est pas encore là un sujet? On a l'impression que tout nous est dû. Pourtant, Christ, Dieu nous permet d'avoir tout ça. Comment est-ce que des chrétiens persécutés au fond d'une prison arrivent à louer Dieu? Et c'est ce que ce chant suivant nous dit. Bénis Dieu, ô mon âme. Alors le titre en anglais, c'est 10 000 raisons de bénir Dieu. Et je voudrais vous laisser un dernier verset. Après, je laisserai la place à Thomas pour la conclusion et pour les annonces aussi de l'église de Glin. Dans le psaume 103, versets 1 à 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis Dieu, ô mon âme. »
Je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, prends gloire à son Saint-Nom, au chant de comme jamais, oh mon âme, prends gloire à son Saint-Nom, prends gloire à son Saint-Nom, prends gloire à son Saint-Nom.
Nous voilà arrivés à la fin de ce temps ensemble. Et je vous invite à partager quelques annonces. Alors, pour la vie d'église, jeudi, nous aurons notre étude biblique. Nous sommes dans une mini-série autour du livre d'Esther. Et ce livre souligne un peu, pose la question, mais où est Dieu dans ce livre où Dieu n'est à aucun moment nommé et donc, on va pouvoir étudier ensemble et voir où est Dieu lorsqu'il n'est pas nommé, où est Dieu lorsqu'on ne le voit pas. Donc ça c'est pour jeudi à 20h15 sur Zoom. Enfin nous aurons notre groupe de jeunes samedi à 19h30, une fois encore ce sera sur Zoom. Enfin il y a aussi, comme j'en ai parlé tout à l'heure, toute cette période d'avant avec un parcours de mails de nouvelles, de mails quotidiens avec des méditations de John Piper. Alors pour cela vous pourrez le trouver dans le prochain mail de nouvelles, mais vous pourrez aussi le trouver dans les commentaires. Normalement Benjamin l'a rajouté tout à l'heure, donc vous pourrez facilement vous inscrire pour recevoir les mails de méditation quotidienne de John Piper. Alors bientôt nous allons avoir un départ. Alors, même si ça nous attriste un petit peu de le voir partir, on est très content, on est fier de lui et on veut le soutenir dans la prière. Donc, Benjamin Zander partira le 9 décembre en Afrique de l'Ouest. Donc, ce sera là le jour de son départ. Il va pouvoir faire quelques beaux mois là-bas de service, de découverte. Et donc, je vous invite à prier pour lui. Et la semaine prochaine, on en saura peut-être un peu plus. Alors, rendez-vous tout de suite à la fin du culte sur Zoom, pour ceux qui le souhaitent. Vous pourrez aussi retrouver normalement le mail en description. Sinon, il est dans le mail de nouvelles de la semaine dernière. Habituellement, il y en a un qui part le samedi, mais là, toutes les infos étaient dans celui de mercredi. Donc, vous pourrez retrouver les différentes choses dans le mail de mercredi. Nous voilà donc arrivés à la fin de ce culte ensemble. Je remercie l'église de Glun de s'être joint à nous. C'est toujours bien de pouvoir collaborer. Merci à vous. On espère qu'on va pouvoir encore collaborer et que la prochaine fois, peut-être, ce sera en présentiel, en physique. Donc voilà. Merci à chacun. Bon dimanche et à tout de suite sur Zoom.